Le billet politique, Stéphane Robert, la France pourrait-elle perdre la Nouvelle-Calédonie ?
C'est un scrutin dont on mesure assez peu l'importance en France métropolitaine et qui a été préparé dans une quasi-indifférence médiatique. Un nouveau référendum aura lieu ce dimanche 4 octobre à 16 000 km d'ici. La Nouvelle-Calédonie est appelée à se prononcer encore une fois pour décider si, oui ou non, elle quitte le giron de la République française. Il y a deux ans, le non l'avait emporté à un peu plus de 56%. Seulement, les accords de Matignon de 1988, prolongés par l'accord de Nouméa en 1998, prévoit la possibilité d'organiser 3 référendums à 2 ans d'intervalle. La question dès lors est donc, la situation a-t-elle évolué en l'espace de 2 ans? Et surtout, a-t-elle évolué au point de gommer l'écart qui s'était manifesté entre le non et le oui en 2018? Si l'on écoute les responsables politiques sur place et les conseillers en charge de cette question à Paris, plus personne ne se risque au moindre pronostic. L'une des raisons essentielles est que tous les sondages, il y a 2 ans, donnaient le non à l'indépendance vainqueur à une écrasante majorité. 65 et même 70%, ce devait être un raz-de-marée. Finalement, surprise, le résultat s'était révélé beaucoup plus serré qu'attendu. Un peu plus de 56% seulement en faveur du non, près de 44% en faveur du oui. Les indépendantistes à l'époque avaient exulté. Le rêve qu'ils caressaient depuis des décennies était peut-être dans un avenir proche à leur portée. C'est la raison pour laquelle ils attendent beaucoup de ce deuxième référendum.
Et ont-ils des raisons d'espérer, Stéphane ?
Eh bien, plusieurs éléments laissent penser que le vote en faveur du oui à l'indépendance est en mesure de progresser. D'abord parce que l'État français est moins présent, moins impliqué qu'il y a 2 ans. Un changement majeur est intervenu juste avant l'été, le remaniement. Édouard Philippe a quitté Matignon. Or, il était un Premier ministre très au fait, très engagé dans ce dossier. Il avait su s'attirer la considération et le respect d'à peu près tous les acteurs. Le Premier ministre Jean Castex, lui, a d'autres chats à fouetter, c'est ce qu'indique à demi-mot son entourage, et surtout il n'y connaît pas grand-chose. Et ça s'est vu hier après-midi à l'Assemblée nationale lorsque le député Didier Quentin l'a interrogé sur le sujet.
Monsieur le Premier ministre, l'on ne peut pas dire que nous ayons beaucoup entendu le Président de la République et votre gouvernement sur ce choix crucial pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Pouvez-vous nous préciser la position du gouvernement resté jusqu'alors bien silencieux?
Jean Castex a répondu de façon très convenue, le nez penché sur la petite fiche qu'on avait préparée pour lui.
Monsieur le député Quentin, l'État reste et restera, je cite, « impartial au service de tous dans l'organisation des opérations référendaires ». Le président de la République l'a annoncé, il s'exprimera après la consultation de dimanche.
Il y a depuis quelques mois du côté du pouvoir exécutif un certain flottement dans la gestion de ce dossier. Le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, en a désormais la charge, mais il lui faut un peu de temps pour s'en emparer et il n'a pas pu s'y rendre cet été à cause de l'épidémie de Covid-19. Le deuxième élément est que les tensions sont très fortes entre les deux camps, indépendantistes et loyalistes, plus encore qu'il y a 2 ans. Et ça, parce qu'ont eu lieu des élections provinciales en 2019 et les équilibres politiques ont changé. Ce sont les plus radicaux des loyalistes qui ont pris le pouvoir sur les modérés et qui font désormais face aux canaques indépendantistes. Résultat, les insultes fusent et les deux camps appellent à en découdre par bulletin de vote interposé. Quel effet cela peut-il avoir sur la mobilisation des électorats? C'est ce que nous verrons dimanche.
C'est quand même une question à laquelle on commence à avoir une réponse du côté des indépendantistes,
oui,
Stéphane.
Oui, il semble s'opérer une mobilisation assez conséquente dans les îles Loyauté, à l'est de Grande-Terre, où la population kanak est particulièrement présente. Or, lors du précédent scrutin, l'abstention y avait été beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ça pourrait être différent cette fois-ci. D'ailleurs, on constate dans les bureaux délocalisés à Nouméa et sur Grande-Terre, où les kanaks des îles peuvent aller voter, un afflux d'inscriptions, 2600 de plus qu'au précédent scrutin, preuve donc qu'il se passe quelque chose. Une autre inconnue réside dans les effets que peut avoir la crise économique sur place en raison de la crise sanitaire. On avait constaté lors du référendum il y a 2 ans que dans la population non kanak, une part importante des chômeurs, des travailleurs modestes, avait voté oui à l'indépendance, ce qui représente plusieurs milliers de personnes. Et donc avec la crise, ce vote est-il en mesure de simplifier ? C'est une autre interrogation. On voit donc plusieurs éléments d'observation qui plaident en faveur d'une progression du oui à l'indépendance. Maintenant, est-ce en mesure d'inverser le résultat de 2018? La Nouvelle-Calédonie peut-elle décider de couper les ponts avec la France? C'est assez peu probable. Il y avait quand même plus de 18 000 voix d'avance en faveur du non il y a 2 ans. Mais si l'écart se resserre, ça peut installer une dynamique en faveur du oui dans la perspective d'un troisième référendum qui est prévu par les traités. Et puis surtout, ça peut alimenter un peu plus encore les tensions entre les deux camps, indépendantistes, loyalistes, qui à mesure qu'on approche du terme du processus initié par Michel Rocard il y a plus de 30 ans, semblent de moins en moins avoir pour projet de se réconcilier.